Éminence, Excellence, Monsieur Chanoine, Mesdames, Messieurs. La Fondation Lionel Groulx, qui vous accueille ce soir à sa deuxième manifestation publique, se rend parfaitement compte de ce que lui vaut pareil encouragement de votre part. Si votre présence constitue avant tout un nouveau témoignage à l'endroit de M. Chanoine Groulx, elle assure, en même temps, sous une forme particulière, votre efficace participation à la création d'un fonds essentiel à la poursuite des fins recherchées par l'œuvre. Mon premier devoir est donc d'exprimer à tous, invités d'honneur et autres, nos remerciements très sincères. Il convient également de dire notre gratitude à toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de ce dîner. Et à ce chapitre, je tiens à faire particulièrement état de la précieuse collaboration fournie par le Comité des Dames Auxiliaires, présidé par une insigne bienfaitrice, Mme Alfred Thibaudet. Enfin, à M. Guy Raberge, son distingué président, nous tenons à renouveler le témoignage de notre vive appréciation de la bienveillance avec laquelle l'Office national du film a permis la projection en primeur du beau documentaire que vous verrez ce soir. Il y aura bientôt 3 ans, lors d'une grande soirée marquant ses débuts, la Fondation vous présentait ses lettres de créance. Ce soir, elle vous fera part des résultats acquis et des tâches à parfaire. Les fiduciaires ont insisté pour que pareil exposé vous vienne de celui-là même qui a joué un rôle majeur dans l'organisation et le développement de l'institution. Vous aurez donc, mesdames et messieurs, le plaisir d'entendre Maître Maxime Raymond. Mon collègue, sénatoire, a pour la louange une répugnance aussi grande que la discrétion qu'il met dans l'exercice de ses libéralités. Ainsi prévenu, je me contente de signaler chez notre ami un sens très vif du devoir professionnel, sa haute conception du rôle de l'homme public, l'élévation et la solidité de ses propos dans la discussion de la chose politique, le souci constant des intérêts supérieurs des siens. Je ne mentionnerai même pas son culte presque farouche de la vertu de probité, me contentant d'emprunter du biographe pour dire de sa carrière qu'elle est toute en ligne droite. Rien d'étonnant, alors, mesdames et messieurs, qu'il y ait des affinités aussi profondes entre celui qui tantôt vous parlera de l'Institut d'histoire de l'Amérique française et son ami, M. Raymond, qui va maintenant vous entretenir de la Fondation Lionel Groulx.
Monsieur le Président, Éminence, Excellence, Monsieur le Chanoine, Mesdames, Messieurs. Il y a 3 ans, nous étions réunis pour fêter le 10e anniversaire de la Revue d'Histoire de l'Amérique française et rendre hommage à son fondateur, le chanoine Lionel Groulx. Ce soir, nous voici encore une fois réunis dans un même sentiment de fidélité, un commun idéal, pour rendre un nouvel hommage d'amitié et de fidélité à notre grand historien national. Je profite de cette occasion pour souligner l'œuvre accomplie par le chanoine en vue de promouvoir l'avancement et la diffusion de la science de l'histoire du Canada français, notamment par la fondation et la publication d'une revue trimestrielle de 160 pages, qui, à l'âge de 13 ans, a maintenant sa place dans toutes les grandes bibliothèques et fait rayonner le nom du Canada français à l'étranger. Elle constitue une sorte d'ambassade intellectuelle. Je voudrais également rappeler la pensée qui a présidé à la création de cet organisme de soutien qu'est la Fondation Lionel Groulx et vous exposer le rôle et la nécessité de cet organisme. Comment est née la revue? Comment a-t-elle vécu? Elle est née fragile. A-t-elle passé par l'incubateur? Nous l'ignorons. Mais nous savons qu'elle est née d'un père spirituel âgé de 68 ans, sans le sou, comptant sur les abonnements à venir, une équipe de collaborateurs à créer et le dévouement pour la maintenir. Dans ces conditions, on peut imaginer quelle dose de courage audacieux il a fallu pour entreprendre pareille aventure. Comme elle atteindra bientôt ses 14 ans, on peut se demander comment elle a vécu. La réponse nous est donnée bien simplement par son directeur. Elle a vécu de dévouement, d'absolue gratuité. La revue ne fait pas ses frais. Elle vit grâce aux dons de ses fondateurs. C'est dans ces conditions que la revue a vécu et son fondateur, qui la considère comme son œuvre de prédilection, celle qui, plus que toute autre, permet de servir la cause de l'histoire, s'est inquiété de sa survivance. Vous avez là la raison d'être de la Fondation Lionel Groulx et nous avons cru faire œuvre utile et patriotique en créant cet organisme. La fondation est donc née de cette inquiétude, exprimée par le chanoine Groulx sur la survivance de la revue, œuvre principale de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, inquiétude souvent répétée dans la chronique de l'Institut. L'œuvre a vécu, comme je l'ai dit, du désintéressement de ses collaborateurs et du dévouement inlassable de son directeur, qui consacre le meilleur de son temps sans rémunération. C'est anormal, tout le monde en conviendra, et ça ne peut durer ainsi. Une œuvre ne vit pas sans moyens. Elle a besoin d'un budget. Elle a aussi besoin d'attention et de sympathie. Nous avons pensé qu'il n'était pas juste qu'une revue qui sert la cause du Canada français soit exposée à disparaître comme tant d'autres avant elle. Qu'il n'était pas juste que ceux qui consacrent une partie de leur temps à la recherche du fait historique français en Amérique ne soient pas rétribués. Nous avons pensé qu'au Canada français, il y avait suffisamment de gens qui s'intéressent à une œuvre aussi essentielle pour en assurer la survie et les moyens de rétribuer ceux qui s'y consacrent. De là, notre premier objectif, contenu dans notre charte, favoriser l'étude de l'histoire du Canada français et de tout le fait français en Amérique, promouvoir l'avancement et la diffusion de la science de l'histoire, et particulièrement aider l'Institut d'histoire de l'Amérique française à poursuivre son œuvre. Notre deuxième objectif, qui est la conséquence du premier, est de réaliser un fonds suffisant qui améliorera la condition présente et assurera la permanence de l'œuvre. J'ajouterai que présentement, nous sommes en bonne voie de réussite. Une autre raison d'être de la Fondation, c'est que nous croyons à la nécessité de l'enseignement de l'histoire dans l'éducation. Camille Julien, historien de marque, membre de l'Académie française, qui a consacré à l'histoire toute une vie de labeur, disait « Le rôle de l'historien est celui d'un éducateur ». En France, vers 1925, il s'est dessiné un mouvement, parti de certains instituteurs, avec l'appui de certains théoriciens, pour déclarer la guerre à l'histoire. Pour répondre à cette agression, l'Académie française choisissait comme sujet pour le prix d'éloquence « Nécessité de l'histoire dans l'enseignement national ». De son côté, Camille Julien, ouvrant son cours au Collège de France, consacra toute une leçon à défendre la science de l'histoire. N'est-ce pas elle qui nous rappelle nos devoirs envers ceux qui nous ont précédés sur un même sol, N'est-ce pas elle qui nous apprend à aimer, à travers ses épreuves et ses luttes, ses grandeurs et ses souffrances, le pays où nous sommes nés? Elle est la mère de l'idée de patrie. Voilà ce que les sans-patrie ne lui pardonnent pas. Et j'ajouterai ce mot du maréchal Foch, qui se plaisait à dire que les peuples ne sont menacés que s'ils perdent la mémoire. La mémoire des peuples, c'est l'histoire. On ne conçoit pas un peuple sans elle. Avant de chercher à savoir vers quoi nous allons, voyons d'abord d'où nous venons. La meilleure manière de servir l'humanité, disait Raymond Poincaré, est de commencer par aimer sa patrie. Si le patriotisme ne s'apprend pas, il y a malheureusement des écoles où il se désapprend. Si l'enseignement de l'histoire, qui développe l'idée de patrie, qui nous apprend à aimer le pays où nous sommes nés et où nous avons grandi, qui nous rappelle l'exemple glorieux de nos pères, nous apprend à vénérer leur mémoire et à respecter nos traditions ancestrales, est nécessaire pour les autres peuples, à plus forte raison l'est-il pour notre petit peuple canadien-français en terre d'Amérique. Et c'est ce à quoi vous avez consacré la plus grande partie de votre vie. La première vertu du citoyen, c'est le patriotisme, disait Paul Noumer. Cette vertu, vous la possédez et vous l'avez communiquée aux autres. Vous avez, par votre enseignement, par vos écrits, vos conférences, vous avez largement contribué à nous faire aimer notre petite patrie du Québec. Vous avez fait contrepoids aux défaitistes, à ceux qui nous prêchent l'abandon de ce que nous avons de plus cher pour un peuple qui aime ses origines et qui en est fier. Vous nous avez inculqué le désir de rester attachés à la terre ancestrale, de garder intact notre culture, notre langue, nos traditions françaises, notre religion, héritage de nos pères. Brunetière disait que la première vertu des peuples est l'orgueil de leur tradition nationale. Sachant que l'histoire est la gardienne des souvenirs d'un peuple, la gardienne de ses traditions, vous avez voulu perpétuer votre enseignement de l'histoire du Canada français en fondant la revue d'histoire de l'Amérique française. J'ai raison de croire, pour l'honneur du Canada français, que la revue ne manquera jamais ni de sympathie ni de lecteurs. Et si pour vivre, il faut certains sacrifices, espérons qu'il se trouvera toujours des Lionel Groulx, des collaborateurs désintéressés, des souscripteurs généreux pour assurer la vie matérielle et la permanence de l'œuvre. Nous savons que vous n'avez jamais désespéré de la survivance française au Canada. Ne doutez pas, je vous en prie, de la survivance de votre revue, qui est le prolongement de votre enseignement. La Fondation Lionel Groulx s'en porte garante et elle tiendra ses engagements. Non seulement l'étude de l'histoire nous fait aimer davantage notre patrie, mais elle est profitable à tous sous divers rapports. Écoutez l'appel que Jacques Bainville faisait aux jeunes intellectuels. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, je leur dirais d'abord: dirigez-vous vers l'histoire. C'est une étude qui n'est jamais perdue. Elle est le jugement du monde. Elle est aussi la clinique du monde. Que diriez-vous d'un médecin qui ne serait jamais allé à l'hôpital? Eh bien, nous avons eu des hommes d'État qui conduisaient à nos affaires dans les temps où l'Europe était sans dessus dessous. Ils ignoraient les précédents, ils ignoraient les origines et les causes lointaines des événements qu'ils avaient à diriger. Pour l'homme d'État, la connaissance des faits anciens et même plus récent, est profitable. Elle aide à éviter des erreurs. L'histoire n'est pas une science conjecturale. Elle ne se fait pas avec des si, mais avec des pourquoi et des comment. Il est parfois nécessaire de la relire pour mieux comprendre le tourbillon des événements. Celle du monde a toujours été composée de catastrophes successives. Les uns gémissent sur les calamités des temps présents, les autres annoncent celles des époques futures. Nous avons tous intérêt à la connaître. J'ai rappelé, M. le Chanoine, les services qu'au cours de votre carrière d'historien, vous avez rendus à notre petite patrie. Elle en attend encore de vous. Le cadran de votre existence indique mal votre âge. Vous n'êtes ni vieux ni jeune. D'ailleurs, vous êtes membre de l'Académie canadienne-française, compagnie qui, paraît-il, confère à ses membres, si elle suit l'exemple de sa sœur aînée, un brevet de longévité. Vous ne songez pas non plus à vous inscrire sur les registres de l'assurance chômage. Les octogénaires à notre époque sont dans la force de l'âge. Nous voulons vous conserver encore longtemps pour le bien du Canada français. Pour combattre les défaitistes, acharnés à le perdre, nous avons besoin d'hommes renseignés, animés d'un véritable patriotisme qui garde le sens exact de ses traditions et de sa providentielle destinée.
Messieurs, vous venez de dire ce que j'aurais eu à exprimer. Éminence, pour la deuxième fois, vous avez voulu être des nôtres et, au nom de mes collègues de la Fondation, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre présence. Sachant mal, peut-être, apprécier votre extrême bienveillance, j'ai eu tantôt la témérité de vous demander si vous diriez quelques mots à nos amis. Et la réponse que j'ai reçue, nos amis l'ont devinée.
Monsieur le Président, Excellence, cher Monsieur Chanoine, invité d'honneur et mes bien chers amis, je me demande pourquoi on insiste pour que je rompe le charme. Monsieur le Chanoine vient de terminer sa causerie par l'une de ses fresques qui apparaissent dans son immense œuvre historique, comme des vitraux de cathédrale. Celui qui ouvre le volume a l'impression d'entrer dans un temple immense. Froid, lorsque tout à coup, levant les yeux, il aperçoit la lumière qui entre à flot et qui passe à travers un vitrail. Et dans ce vitrail, c'est l'image d'un père de la patrie, d'un héros. C'est l'image de l'aïeul. Tous nous l'avons contemplé dans l'un de ses livres. L'aïeul. Celle qui a porté humblement dans ses flancs l'avenir de la petite patrie. Et il y a un instant, en tournant dans l'abside, Monsieur le Chanoine Grou s'est tourné vers la porte, et c'est par une vision de son enfance qu'il a voulu souligner le fait historique de ses 82 ans. L'historien a le don, en effet, d'unir les extrêmes, puisqu'il a scruté les origines et qu'il essaie de découvrir dans le présent les vestiges et l'influence de ce passé. Monsieur le Chanoine, je n'aurais pas l'outrecuidance de m'aventurer dans une thèse d'histoire. Vous avez beaucoup de condescendance pour vos évêques et vous savez que les pauvres évêques sont des hommes besogneux qui n'ont pas toujours le temps de faire de l'histoire. Puissent les historiens être bienveillants à leur égard. Mais puisque, en ce moment, beaucoup d'hommes parlent du sens de l'histoire et qu'ils semblent tout expliquer par le sens de l'histoire, et que ce sens de l'histoire, pour eux, c'est tout simplement le destin aveugle qui dirige l'homme, il me semble que ce soir, nous devons rendre hommage à un historien qui a su projeter dans l'œuvre de l'historien la lumière fulgurante et chaude de la divine providence. Il est impossible pour un chrétien de concevoir l'histoire comme un destin aveugle. L'homme ne s'en va pas avec un joug sur les épaules et un anneau au nez et avec des boulets aux pieds. L'homme est le Fils de Dieu et c'est lui qui bâtit l'histoire avec sa liberté, avec son cœur, avec son héroïsme. Nous ne croyons pas en ceux qui subissent l'histoire. Nous croyons en ceux qui écrivent l'histoire de Dieu sur la terre. Et Dieu continue à écrire son histoire. Et comme le disait la grande Sainte Thérèse, il arrive parfois, parce qu'il est tout puissant, qu'il peut écrire droit sur des lignes tordues. Nous croyons, et nous croirons jusqu'à la fin, que Dieu a assisté à nos origines, et que ce n'est pas en vain que le premier acte qui ait été accompli sur le sol de notre ville, ce fut l'offrande du Saint-Sacrifice de la Messe. Et nous croyons et nous croirons toujours que Dieu nous a accompagnés. Et tout petit peuple que nous sommes, nous avons déjà au ciel de notre histoire deux bienheureuses qui brillent, comme les deux étoiles d'une constellation qui continuera à envoyer jusqu'ici ses feux, sa chaleur et sa lumière. Monsieur le Chanoine, vous avez été l'inspirateur d'une génération. La génération qui nous a précédés. Tout à l'heure, nous verrons un film qui sera certainement émouvant. Et nous verrons comment vous avez commencé votre propre histoire. Vous l'avez commencé humblement, dans des institutions de chez nous, dans des collèges, dont l'histoire peut-être pas toujours héroïque, mais dans des maisons d'institutions qui ont essayé tout de même de vous donner cet esprit de pénétration, ce jugement qui vous ont permis ensuite d'accomplir l'œuvre que nous magnifions ce soir. Mais ce que nous admirons dans votre histoire, c'est ce rôle d'homme de Dieu, ce métier de prêtre que vous avez accepté dès la première heure, alors que vous avez fait descendre dans l'âme d'adolescent des espoirs infinis. Et vous avez commencé à écrire, non pas la grande histoire, mais la petite histoire, par un roman, Croisade d'adolescent, un roman qui était un roman de fiction. Puisque, à l'heure où vous l'écriviez, les phalanges de l'action catholique n'avaient pas encore été appelées à militer pour le règne de Dieu. Et cependant, c'était bien l'action catholique que vous lanciez au séminaire de Valleyfield, lorsque, jeune prêtre, vous appeliez des adolescents à s'enrôler sous le drapeau du Sacré-Cœur. Monsieur le Chanoine, lorsque vous êtes entré ensuite dans la grande histoire, vous n'avez jamais oublié que vous étiez l'homme de Dieu. Et si vous avez scruté les faits, objectivement, vous avez essayé de discerner dans ces faits ce reflet mystérieux que seule la foi peut nous faire découvrir, la présence de la divine providence. Oui, vous avez commencé votre vie en regardant les beaux bateaux blancs qui filaient à l'horizon du lac Saint-François et du lac Saint-Louis. Nous avons eu des horizons identiques dans notre enfance. Et maintenant que le soleil décline à l'horizon, vous regardez ces grands navires, ces grands vaisseaux qui ont porté les peuples. Mais pour les individus, comme pour les peuples, et pour les peuples comme pour les individus, il faut que les voiles soient gonflées par le vent de l'esprit pour qu'ils puissent s'orienter vers leur destinée, vers leur idéal. Hier, j'avais le privilège d'assister à l'avant-première du film qui vous sera présenté tantôt. On y trouve un exposé des idées maîtresses de la carrière de M. Sherman Grew, quelques épisodes de sa vie et la mention de certaines des œuvres qu'il a accomplies. Après avoir apprécié les tranches de vie qui s'y déroule, les magnifiques images qui y apparaissent, après avoir vibré une fois de plus aux accents cette âme frémissante, un trait de la personnalité mise en relief m'a paru dominer tous les autres. C'est celui du respect, chez lui, de la hiérarchie des devoirs. D'abord, le personnage est prêt. Ce caractère inspire toutes les activités de cette existence débordante. On comprend mieux ainsi la plénitude du don qu'il fait au sien d'une vie merveilleusement remplie et d'une incessante efficacité. Ce soir, cet homme de Dieu accepte de prendre la vedette à l'écran. Je vous laisse deviner, mesdames et messieurs, quel motif puissant. On a dû faire valoir pour obtenir sa participation à une telle innovation. Mais notre personnage est en même temps un éminent serviteur de la patrie. Peu d'hommes chez nous ont, à mon avis, travaillé avec autant d'ardeur à l'exaltation de la pensée nationale. Cet amour des siens éclate avec puissance tôt dans sa vie. D'abord, ce sont les mouvements de jeunesse, puis les œuvres d'épanouissement de notre enseignement qui bénéficient de son concours. Sans jamais se lasser, il apporte son appui et généralement sert de guide éclairé à mains organismes voués au service d'intérêts supérieurs. Comme d'instinct, il sait découvrir ce qui pourrait constituer un mouvement d'avant-garde ou un courant de défense collective. Et dans chaque cas, il paie généreusement de sa personne. Mais toujours, sa principale préoccupation demeure la science de l'histoire. Puis, à l'heure où tant d'autres auraient songé à une retraite bien méritée, M. le chanoine fonde l'Institut d'histoire de l'Amérique française. C'est en quelque sorte l'épanouissement du rêve de sa carrière. Enfin, est établi ce foyer de culture indispensable à un peuple en constant besoin des enseignements du passé, autant que soucieux de son avancement scientifique. Le documentaire qui passera tantôt à l'écran ne reproduit pas cette phase particulière de la vie de M. le chanoine. Mais il fait pressentir en quelque sorte les raisons profondes qui ont inspiré la création de l'Institut. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, je vais sans plus tarder prier M. le chanoine de nous parler de son œuvre de prédilection, l'Institut d'histoire de l'Amérique française.
Éminence, Messeigneurs les évêques, Monsieur le Président, mes bien chers amis. Marcel Pagnol, recevant récemment à l'Académie française Marcel Achard, lui décochait ce trait assez ressemblante à une petite caminerie. Le plaisir que j'ai, monsieur, à vous recevoir sous cette coupole n'a d'égal que l'étonnement de vous y voir. J'éprouve quelque chose ce soir de ce plaisir et de cet étonnement devant cet auditoire, venu si nombreux au déroulement d'un film et d'un hommage, réservé d'ordinaire aux trépassés, et qui, accordé à la sorte de survivant que je suis, et dans ce nuage d'aromates dont on l'enveloppe, fait penser à un pieux et hâtif ensevelissement. Disons, si vous le voulez, une méprise ou une anticipation de quelques années. Vous avez heureusement d'autres raisons de vous trouver ici. Vous répondez aux invités d'une certaine fondation. Vous comprendrez, mes chers amis, qu'avec l'habit dont je suis vêtu, je me sens un peu gêné de vous parler d'un enfant qui porte mon nom. Sans doute aurez-vous deviné qu'il s'agit tout au plus de l'un de ces noms que l'on accorde généreusement à un enfant adoptif. Car les vrais coupables, ceux qui ont engendré le nouveau-né et qui, un de ces jours, l'ont déposé à ma porte, comme l'on dépose parfois ces sortes de colis sur le perron d'une crèche, les coupables, vous les avez devant vous. Monsieur Joseph Blain, Monsieur Maxime Raymond, deux avocats qui en ont déjà fait bien d'autres. Le docteur Jacques Genet, un médecin naturellement complice en ces sortes d'affaires. Et mon frère, le notaire Chalut, Auguste Aymon, il est quoi. Comment leur en voudrais-je? Professionnel, homme d'affaires, mais capable d'apprécier intelligemment une entreprise de caractère culturel de leur plein gré. De leur seul et unique mouvement, je tiens à l'affirmer, ils ont décidé d'assurer l'avenir d'une œuvre d'histoire. Et il me semble que vous ne sauriez leur refuser vos suffrages, d'autant que mon intérêt est mince en l'affaire, puisqu'il s'agit d'assurer la survivance d'une œuvre quand je ne serai plus là. L'on se plaint volontiers que dans le domaine scientifique, la contribution canadienne-française s'affirme plutôt modeste. Peut-être alors, accorderez-vous quelques estimes à une revue d'histoire qui, sans finance, sans bruit, sans autre publicité qu'une publicité gratuite, n'ayant pas les moyens de s'en payer d'autres, a réussi à trouver place dans un grand nombre des plus grandes bibliothèques du monde, à Londres, Oxford, à Paris, Lyon, Bruxelles, Lille, à Madrid, au Vatican, en une cinquantaine d'universités et grandes bibliothèques américaines, à commencer par celle du Capitole, en plusieurs bibliothèques de l'Amérique latine, en un bon nombre de nos ambassades, dans la plupart des universités anglo-canadiennes, à Dakar, en Afrique, en attendant d'être à McGill, d'où elle attend toujours le dignus intrare. Et ces abonnements, nous ne sommes pas allés les solliciter, n'en ayant non plus les moyens. L'on est venu les chercher, et ce sans doute, parce que quelques hommes de chez nous, historiens et chercheurs, peu nombreux, et d'un dévouement tout gratuit, ont pu démontrer qu'en un domaine à tout le moins, celui d'histoire, il était possible d'affirmer en haut lieu et à travers le monde une présence canadienne française. Prestige scientifique, prestige littéraire, vous laissez ces subtilités à ceux-là qui rangent l'histoire dans le domaine scientifique qui n'est pas tout à fait le sien, et aux gens de lettres qui l'excluraient volontiers du domaine de la littérature, où elle pourrait être chez soi. Il vous suffit qu'à la fois science et art, une discipline intellectuelle, ne cumule point ces deux caractères sans revêtir quelque utilité. Oh, sans doute. Nous n'irons pas les railleries de Paul Valéry, qui classait l'histoire parmi les somnifères et les stupéfiants, et surtout parmi le bois mort des civilisations, oubliant que si les civilisations sont mortelles, on ne l'apprend guère à ce sens que par l'histoire. Pas davantage ne faut-il écarter les durs jugements de Nietzsche, pour qui l'histoire ne serait supportable que par les personnalités fortes. Son effet ordinaire étant de démolir les faibles, de brouiller leur sensibilité et leur jugement. Nous ne ferons point d'histoire, pour notre part, la magistravité des vieux rhéteurs, fille, héritière de l'ancienne pythonisse, éruptant des oracles du haut de son trépied, ou encore recueil de recettes utopiques, officine de prophétie, à l'usage des moralistes et des chefs d'État, ceux-ci curieux d'y chercher les pronostics de la défaite inéluctable et prochaine de leurs adversaires. Il suffit à la gloire et aux légitimes prétentions de l'histoire qu'elle apporte à chacun de ceux qui la font et qui la lisent un enrichissement de leur univers intérieur. N'est-ce point, mesdames, messieurs, sans doute possible, par elle, que nous récupérons une notable partie des valeurs culturelles accumulées par les siècles passés. Par elle encore, que nous pouvons élargir, dilater notre expérience individuelle, notre connaissance de l'homme, s'il est vrai, que c'est à fréquenter l'homme à l'observer, à le saisir dans ses comportements multiples, on apprend à connaître l'homme, cet inconnu. Chacun pourrait se poser la grave question, quelle connaissance de l'être humain, de la vie humaine, des virtualités infinies de ce maître du monde, quelle science en pourrais-je acquérir par ma seule connaissance personnelle, et par le seul regard sur l'homme de mon entourage et de mon temps. C'est par l'histoire, pensait déjà Sénèque, qu'on s'arrache à l'étroite temporalité, à l'étroitesse de sa temporalité propre, pour s'associer à la vaste société des esprits de tous les temps. Puis, quel répertoire de drames, de tragédies, de faits merveilleux, l'histoire nous aura conservé, et qui pourrait évaluer à son juste prix le ferment qu'elle a fourni par la seule à l'imagination créatrice, je veux dire le parti qu'en ont pu tirer les grands poètes épiques, les grands dramaturges, les grands romanciers. Magistrabilité, maîtresse de vie, j'oserais même dire que l'histoire peut l'être par un haut et fort explicite enseignement. Elle est faite, après tout, d'actes humains. Ces actes, actes individuels, actes de chef, actes collectifs, l'histoire les projette sur son vaste écran, non point dans une absolue nudité, mais avec leur couleur, avec leur contenu, dans leurs causes, dans leurs conséquences. Elle nous les fait voir même se liant, s'étalant, en accord avec une certaine échelle des valeurs, ou contre les valeurs éternelles de toute société humaine. Mais alors, si l'on imagine un esprit réfléchi qui se penche sur ces faits et sur leur suite, quoi donc peut bien l'empêcher d'y découvrir pour tout peur, quelles qu'ils soient, les conditions et les causes véritables de ces reculs, de ces stagnations, de ces progrès, et d'apercevoir du même coup les normes classiques des saines et durables civilisations. J'irai plus loin. On admet généralement, et comme vérité expérimentale, du moins parmi les derniers tenants du bon sens, qu'on décide point une politique, un système, une réforme économique, sociale, un système d'enseignement d'éducation à partir de zéro, c'est-à-dire de l'homme abstrait ou inconnu, mais l'homme contraire, l'homme d'une tradition, d'une forme bien déterminée d'esprit, capable de certaines virtualités qui, donc, va les définir au chef d'État, à l'économiste, au sociologue, au pédagogue. Allons encore. L'histoire, avons-nous dit, ne peut qu'enrichir et prodigieusement en chacun de nous la connaissance expérimentale de l'âme, que ne peut-elle également nous apprendre sur chacun de nous, sur l'homme individuel que nous sommes. C'est un des maîtres contemporains de l'histoire, Henri René Marou, qui a pu écrire, l'histoire, c'est mon histoire. Elle n'est pas seulement la reconstitution de ma lignée, de mes antécédents biologiques. Elle est aussi la reconstitution, la prise de conscience du développement humain qui m'a fait ce que je suis, qui a abouti à cette situation culturelle, économique, sociale, politique, dans laquelle je suis enserré par toutes les fibres de mon être. Non. Et quoi qu'on dise de mauvais primaires, et vous savez que des primaires, il y en a surtout où l'on ne s'entendra pas d'en trouver, et quoi qu'en pensent certaines gens qui pensent peu, non, l'on ne se sépare pas de son passé pour la décisive raison qu'on ne peut pas. Tout homme, toute génération s'additionne et s'enchaîne à d'autres. Et n'en déplaise à quelques jeunes bacheliers, les diplômes de notre maître le passé valent bien les diplômes de notre maître le présent et même de notre maître l'avenir. Ici, je dois brandir. Ici, je dois brandir l'objection. Si l'histoire est si grave chose, et si l'on y peut prendre de si utiles et de si hautes leçons, n'y a-t-il pas danger que l'historien, se sentant investi de si conséquentes responsabilités, n'incline son œuvre, même inconsciemment, vers les préoccupations trop obsédantes de son temps, vers je ne sais quel souci de pédagogue ou de moraliste. Je le confesserai ingénument, le péril est réel. Mais tout aussi bien, pourrait-on soutenir qu'averti, conscient de l'influence possible de son œuvre et du péril pour un peuple des faux aiguillages, l'historien probe et loyal ne pourra pour cela même que s'efforcer à plus d'objectivité et de vérité. Pour ma part, l'avouerai-je, cette sorte de préoccupation sur la gravité de mon métier n'a pas laissé de fréquemment m'assaillir. Que voulez-vous? Je n'ai jamais professé ni nourri la modestie pédantesque du monsieur qui dit écrire sans même la pensée ni l'espoir qui pourra être lu. Grâce à Dieu, et grâce aussi à un public par trop complaisant sans doute, ce sort-là m'aura été épargné des auteurs moroses, en contemplation perpétuelle et mélancolique devant des rayons de bibliothèque, garnis d'exemplaires moisis, d'ouvrages invendus et qui vous tournent le dos. Son œuvre terminée au surplus, je ne vois pas quelle technique peut bien empêcher l'historien de réfléchir sur les répercussions possibles de ses œuvres. Ai-je trop aimé mon petit pays, le petit peuple dont je ne suis que l'un des humbles fils? Ce peuple l'ai-je surfait dans son art, dans son destin? Ai-je magnifié son histoire? On me l'a reproché, on me le reproche encore. À 82 ans, regardant en arrière, j'ai peine, et qu'on me le pardonne, à me sentir si grandement coupable. Je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pas eu le temps de faire, de dire tout ce qu'il fallait dire et faire, et de ne l'avoir pas mieux dit. Ceux-là parmi nous qui ont perdu foi en notre avenir et qui souhaiteraient bien se justifier de ne rien faire, trouveront malaisément en mes livres, j'en ai peur pour eux, des leçons de défaitisme. Ceux-là de même parmi les nôtres et parmi les autres, qui jugent fatigant, ennuyant nos revendications, et qui, pour en finir, aimeraient fort nous donner figure d'insupportables brandons de discorde, devront chercher ailleurs, dans ces mêmes livres, de croire ruiner à leur base nos droits et nos aspirations traditionnelles. Si je n'ai pas fait plus petite notre histoire, plus chiche, en promesse d'avenir, c'est que je l'ai écrit, raconté, tel que je l'ai vu, et que je lui ai trouvé d'indéniables parties de grandeur, avec large porte ouverte sur l'espoir. Certes, il y a des misères à notre passé. Il y a des misères à notre passé, de grandes misères. Mais j'ai toujours cru que l'histoire n'est pas faite pour les borgnes, et que l'art, même frappé par la foudre, admirons tu, ne doit pas cacher la forêt. Au reste, je ne me fais pas illusion sur la portée et sur le sort d'une œuvre historique. Une revue de l'historiographie nous l'apprend. Il n'en est pas de si rapidement démodé. Elle dure un quart de siècle, et encore, s'il est en elle de durer par autre chose que son contenu. L'espoir de l'historien, c'est qu'il ait pu rendre plus net, plus éclairé, un trait au moins, du visage des ancêtres, comme on parvient à déchiffrer un mot décisif dans un vieux parchemin, une inscription révélatrice sur un monument antique. Ce serait encore et pour frappant qu'à un moment donné, il eût suscité, dans la vie de la génération pour laquelle il a travaillé, quelques vibrations généreuses des arts, quelques haussements de l'idéal collectif, haussements, vibrations, qui ne sauraient s'anéantir sans laisser de traces. Ce bonheur aurait-il été le mien? En mon enfance, au bord de la rivière natale, une image m'attirait, celle des yachts à voile blanche, voile pareille à des ailes de mouettes géantes. Des grands oiseaux couraient, d'étourdissantes bordées, traçant derrière eux un sillage où se roulaient des reflets de soleil. Puis le vent venait à tomber, et la voile devenue étale tombait aussi, et l'eau calme avait tout fait d'effacer le sillage. Image, penserais-je aujourd'hui, de l'œuvre historique et de son éphémère durée. Heureux pourtant l'historien, s'il a pu accrocher un bout de voile au mât du vaisseau qui portait le destin de son pays. Heureux de mer s'il a pu tracer un sillage où il y avait sans doute de l'écume, mais aussi quelques reflets de soleil.